Salut les sportifs et les sportives, j'espère que vous êtes en forme pour ce quatrième et dernier podcast de l'année 2020. Alors pour rappel, le podcast Planète Sport est réalisé par les Olympistes, un jeune média d'actualité sportive. Comme d'habitude, je suis Éloi Touvo, votre animateur sur cette émission. Au programme aujourd'hui, on a du basket avec la chronique NBA d'Axel Daillé et un débat rugby sur la très belle jeunesse et la renaissance du 15 de France. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On est parti, à vos marques, prêts, partez! La NBA a repris le 22 décembre pour le plus grand plaisir des amoureux de la balle orange. Pour les deux premiers matchs d'ouverture, les Brooklyn Nets de Kevin Durant se sont imposés 125 à 99 face à Golden State et les Clippers se sont venus à bout des Lakers 116 à 109. Pour cette émission, Axel Daillé nous parle NBA et s'est donc penché sur le rookie Tyrese Maxey, drafté à la 21e position par Philadelphie. Et je crois que pour toi, Axel, Tyrese Maxey est la prochaine pépite de la NBA. On part sur un petit jingle.
Salut Éloi et salut à tous, j'espère que vous avez une forme olympique aujourd'hui, je dirais même une forme olympiste parce que j'adore faire des blagues, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Lors du dernier podcast, on avait fait un petit débat autour des rookies de cette nouvelle cuvée. Alors on avait parlé notamment de nos pronostics pour le rookie de l'année, de nos potentiels busts, et aussi un petit point sur le français Killian Hayes. Aujourd'hui on va s'éloigner un peu de ce top 10 parce qu'on avait essentiellement parlé des joueurs très attendus de cette draft, et je vais me focus sur l'un de mes petits chouchous, Tyrese Maxey. Maxey si vous le dites à la française, peu importe. Alors Tyrese c'est un combo guard, il a été choisi avec le pick 21 par les Sixers. Il mesure 1m88 pour environ 90 kg et il nous vient de Kentucky. Alors il vient d'avoir ses 20 ans, il est né en novembre et il a un profil qui est assez intriguant pour les différentes routes. Tyrese est avant tout un meneur arrière scoreur, il est très bon finisseur au moment d'attaquer le cercle, c'est vraiment un de ses gros points forts. Il est aussi très rapide, ce qui en fait un poison en transition, notamment couplé avec sa faculté à attaquer l'arceau. Défensivement, il est plutôt actif et correct, même s'il doit progresser un peu sur demi-terrain. Il a une bonne mobilité verticale et latérale aussi, et même s'il n'est pas très grand, son envergure c'est quand même un atout. Il peut défendre sur des meneurs bien sûr, mais aussi sur des arrières, il l'a fait en NCAA. En NBA, ça sera peut-être un peu plus compliqué parce qu'ils sont plus physiquement plus près que lui, donc ça sera peut-être juste par séquence, mais avec son envergure et aussi le haut du corps qui est assez costaud et sec chez lui, il peut quand même défendre par séquence sur les arrières. Ou même si ça switch sur un écran, il peut toujours tenir un gars un peu plus costaud que lui. Au niveau du shoot, c'est aussi à surveiller. L'année dernière, il tournait à 29% à 3 points, sur un volume qui n'est pas énorme, donc c'est pas forcément foufou, mais c'est peut-être un peu trompe-l'œil parce que sa gestuelle et sa mécanique sont vraiment bonnes, et sur la ligne des lancers France, qui est en général un bon indicateur pour un shooter, il était vraiment bon. 83% l'année dernière sur la ligne, donc c'est pas mal. Et voilà, encore une fois, vraiment sa mécanique, sa gestuelle sont bonnes. Donc, c'est peut-être un peu le sous-estimer de se baser sur ses performances de l'année dernière, c'est peut-être un shooter qui vaut quand même mieux que ça à terme. Alors c'est un gars qui est vraiment capable de tenir la balle, en revanche il doit quand même travailler son registre d'organisateur sur demi-terrain. Autant il est vraiment très très bon quand il arrive lancé pour attaquer le cercle, autant vraiment sur ces phases-là de demi-terrain il est un peu moins qualitatif. C'est pas un énorme dribbleur, il pourrait travailler sur Handel encore. Il manque aussi d'explosivité sur son premier pas notamment. Ce qui fait que autant au moment d'attaquer en transition, il est très très bon, autant quand il faut se créer des shoots, c'est peut-être plus compliqué pour lui. De la même manière, il manque aussi un peu de régularité. Et l'année dernière, c'est ce qui a fait baisser sa cote. Il était plutôt vu comme un joueur qui pouvait presque craquer le top 10 à une époque. Et au fur et à mesure de la saison, vraiment, sa cote a régressé. L'année dernière, autant il y a des matchs où il pouvait vraiment taper la grosse vingtaine de points tranquillement, autant il en a terminé aussi beaucoup en dessous des 10. Je crois qu'il a fait à peu près un tiers de match à moins de 10 points, et il tournait à 14 points de moyenne sur l'ensemble de la saison. Voilà, ça montre cette irrégularité. Autant un soir capable de taper les 25, autant le lendemain capable d'en mettre 8. Quoi. Donc c'est aussi ce qui a fait un peu peur à pas mal de scouts en NBA. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est le contexte dans lequel il a évolué à Kentucky. Il était coaché par John Calipari, qui est un coach qui privilégie vraiment l'aspect collectif, et Tyrese Maxey, il était assez peu responsabilisé, enfin c'est relatif, mais il aurait pu l'être plus. Par exemple, on sait qu'il y a quelques années à Kentucky, il y a eu Devin Booker ou Tyler Herro qui portaient beaucoup moins la balle en NCAA qu'ils ne la portent aujourd'hui en NBA. D'ailleurs, ils ont été draftés tous les deux en 13e position, et aujourd'hui, on peut se dire qu'ils auraient pu être très facilement dans le top 10 de leur draft. Donc voilà, même si Tyrese Maxey, c'est vraiment un joueur différent, moins bon shooter qu'a priori, même si effectivement, il faudra surveiller ce qu'il vaut réellement dans ce domaine, mais on a vu qu'il avait du toucher, qu'il savait jouer balle en main, qu'il pouvait gérer des situations de pick and roll, mais tout ça, on l'a vu que par flash. Et ça se pourrait bien qu'en NBA, on le voit beaucoup plus dans ce registre, et qu'on se rende compte qu'à nouveau, le système de Kentucky met pas forcément autant en valeur les joueurs qu'il le pourrait, et qu'on peut peut-être un peu les sous-estimer, ou tout du moins être un peu surpris par ce qu'ils donnent à NBA, comparé à ce qu'on a pu voir d'eux en NCAA. Voilà, c'est aussi pour ça que cette sélection en 21 a pu surprendre certains observateurs qui l'auraient vu plus haut, même si effectivement, voilà, cette saison en NCAA, son irrégularité et le système de Calipari ont fait que sa cote a un peu diminué par rapport à ce qu'elle pouvait être auparavant. À l'heure de cet enregistrement, il a joué 3 matchs avec Philadelphie. Bon, la nuit dernière, les Sixers, ils se sont un peu fait défoncer par Cleveland à l'extérieur. Il n'y avait pas Joel Embiid, c'était vraiment pas terrible. Mais Tyrese Maxey, sur ces 3 matchs, il a quand même eu quelques minutes en sortie de banc. Il a montré des séquences sympathiques, notamment une bonne connexion avec Dwight Howard. Donc en sortie de banc, ça peut toujours être intéressant d'avoir cet axe 1-5 qui peut amener beaucoup de fraîcheur à Philadelphie. Et il a l'air de plutôt plaire à Doc Rivers. En pré-saison, ça s'est bien passé. Le coach l'apprécie, l'équipe l'apprécie. Donc on va suivre l'évolution de son temps de jeu, notamment. Il devrait prendre un peu plus d'importance au fur et à mesure de la saison. Et ça pourrait vraiment devenir une belle option en sortie de banc pour les Sixers. Donc voilà pour cette petite présentation, cette introduction au profil de Tyrese Maxey. En tout cas, on suivra la suite de la saison avec attention pour lui. Et puis merci à vous, vous êtes tous des giga beaux gosses, surtout toi Eloi qui présente à chaque fois ce podcast super bien. Puis on m'a dit qu'il y avait un petit débat rugby qui arrivait, qui valait le détour, donc je vous laisse avec ça. Allez, bonne fin de podcast à vous et salut à tous.
Merci Axel, on suivra de très près ce petit Tyrese Maxey qui, on l'espère, fera fureur sur les parquets de la NBA. Alors pour rappel, Axel l'a dit dans sa chronique, vous pouvez retrouver notre débat sur les rookies de cette saison sur le dernier podcast Planet Sport, disponible sur Deezer, Spotify ou encore Apple Podcast. En parlant débat, on enchaîne tout de suite avec notre débat régulier. Cette semaine, on parle rugby et plus précisément de la jeunesse et de la renaissance du 15 de France. Avec Dupont et Ntamack, je pense qu'on va avoir des choses à dire. Allez, on met le jingle.
Non, mais arrêtez.
Mais tu dis n'importe quoi.
On a le droit de pas être d'accord.
Je vais te rentrer aussi dans la gueule.
Tu veux toujours avoir raison.
Mes amis.
Ça, c'est des faux débats, ça.
Alors, c'est maintenant l'heure de débattre sur le podcast Planet Sport. Aujourd'hui, on chausse les crampons pour parler rugby et notamment de notre équipe de France à 15. Alors, pour vous rafraîchir la mémoire, le 15 de France a fini deuxième du tournoi Destination derrière l'Angleterre. Mais les joueurs de Fabien Galthié ont quand même renoué avec le succès, avec des belles victoires sur les grandes nations comme l'Angleterre, le Pays de Galles ou encore l'Irlande. Mais avant de lancer le coup d'envoi de ce très beau débat, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir avec moi Noah Roche. Salut Noah, comment ça va ?
Salut Eloi, ça va super, je suis prêt à parler rugby.
Bah nickel. Alors il nous vient tout droit de Brive-la-Gaillarde, terre de rugby. J'ai avec moi aujourd'hui Louis Mathieu. Salut Louis, la forme ?
Salut Eloi, ouais, bah, la pêche aujourd'hui hein, pour parler rugby.
T'as que des gens qui ont la pêche, trop bien. Et il est avec nous pour la deuxième fois sur ce podcast. J'espère qu'il sera aussi performant que l'US Oyonnax en Pro D2, son club de cœur. J'ai avec moi Thomas Fraisse. Salut Thomas.
Salut Eloi, ça va ?
Ouais, très très bien. Alors on va revenir un peu aux choses sérieuses. Les joueurs du 15 de France ont, je pense, redonné cette année le sourire à de nombreux supporters français avec de très belles prestations individuelles et collectives. Et justement, je voulais vous demander pour vous, quelle est la révélation de l'année dans cette équipe du 15 de France ? Je te laisse commencer, Louis, si tu veux.
Pour moi, ça va se passer sur les lignes arrière. Donc, moi, je pense à Gaël Ficou. J'avais hésité avec Vakatawa, mais pour moi, c'est clairement Gaël Ficou. Bon, alors, le choix, il peut surprendre un peu, parce que ça fait quand même assez longtemps que Gaël Ficou est en équipe de France. Et aussi du fait que c'est un des plus capés avec 57 sélections. Mais cette année, avec notamment l'arrivée de Sean Edwards, il est devenu le patron de la défense. Il s'est clairement affirmé comme un des leaders de ce groupe. Et d'un point de vue rugby, il est excellent en défense et autant en défense qu'en attaque, quoi. C'est un vrai atout pour l'équipe de France.
Est-ce que Thomas, tu veux réagir là-dessus et dois dire ta révélation de l'année dans ce 15 de France?
Ouais, pour Gaël Ficou, moi je parlerais plus d'une renaissance parce qu'avec l'arrivée de Galtier, il y a vraiment il y a une osmose qui s'est créée dans les lignes arrières, etc. Mais moi je veux plutôt me concentrer sur le pack parce que je suis un peu plus fan des avants et je les regarde beaucoup plus. Et pour moi, franchement, la deuxième et la troisième ligne, c'est vraiment les grosses révélations. On peut pas les dissocier parce que les cinq, Leroux, Willemse, Cro, Aldrit et Olivon, ils jouent tellement bien ensemble, ils sont tellement justes que en choisir un sur les cinq, ce serait impossible.
Ouais, cette année, les deuxième et troisième lignes, c'était vraiment costaud physiquement. C'était impressionnant. T'en penses quoi, toi, Noah?
Ouais, je suis agréablement surpris moi par Charles Olivon, parce que honnêtement, en fait, il a été responsabilisé, très mis en confiance avec le capitanat, et du coup, ça lui a permis de faire des super performances tout au long du tournoi. Bon, du coup, bien aidé par ses compères de la troisième et deuxième ligne, comme l'a dit Thomas. Mais ouais, il a su faire jouer, avancer, très très bon en défense, faut le souligner. Donc ouais, ce serait plutôt Charles Olivon pour moi la révélation.
Et ce qui est intéressant, si tu le soulignes avec Charles Olivon, c'est que j'ai l'impression qu'on a retrouvé un vrai capitaine en équipe de France, moi perso, que je n'avais pas vu depuis Thierry Dussautoir, par exemple. T'en penses quoi, toi, Louis?
Bon, après, moi, j'ai un petit faible pour Guirado et je suis assez attristé par comment il a vécu son capitanat et le fait qu'il a un peu joué de malchance avec cette équipe de France. Mais c'est vrai qu'Olivon dégage une certaine sérénité et puis il a la victoire avec lui. Donc, tout est bien. Tous les arguments sont là pour en faire de lui un capitaine, un très bon capitaine et pourquoi pas rivaliser avec Dussautoir.
Ouais, la comparaison avec Dussautoir, elle est vraiment, vraiment juste parce que c'est vraiment un capitaine il prend ses responsabilités, il s'est sublimé en équipe de France depuis qu'on lui donne ses responsabilités. Il emmène toute son équipe vers, avec la charnière évidemment, mais il emmène toute l'équipe vers la victoire. Franchement, c'est peut-être le meilleur capitaine depuis la retraite de Dussautoir. Donc clairement, c'est le meilleur capitaine.
Et je voulais revenir aussi avec vous sur le dernier match de la France là contre le 15 de la Rose en Coupe d'automne des Nations le 6 décembre dernier. La France avait aligné ce qu'on peut dire en quelque sorte une équipe B très jeune avec peu d'expérience et nombreux ont pensé que cette équipe allait se prendre clairement une rouste contre les Anglais. Mais nos petits Français ils ont quand même bien résisté. Ils n'ont perdu que 22-19 au terme des prolongations. Et du coup aujourd'hui est-ce que la France possède un des meilleurs viviers de jeunes au monde? Si tu veux réagir, Thomas, Noah, pardon.
Ouais, moi je suis assez fier en fait de la prestation de l'équipe B comme on dit. En fait, ça m'avait un peu agacé quand on parle d'équipe B parce que je me mets dans la tête des mecs et ça doit être assez dur de tout le temps se dire ouais, on n'aura jamais la place d'être titulaire, on est l'équipe B. Et ils ont montré sur le terrain qu'en fait c'était bien plus qu'une équipe B, ils pouvaient tout à fait être titulaires et instaurer une grosse concurrence en Ligue de France, donc je suis assez fier d'eux. Et concernant le vivier, en fait je pense que c'est plus les clubs de top 14 qui ont pris conscience qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher des étrangers de partout en Afrique du Sud, en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, parce qu'ils ont un centre de formation exceptionnel en France, en fait, en ce moment, avec beaucoup de jeunes qui arrivent. Et je pense qu'on peut s'appuyer sur ça, là, sur le futur. Et ouais, le vivier des jeunes en France est en train de monter, quoi.
Louis, si tu veux réagir, pas de souci.
Écoute, en ce qui me concerne, moi, ce match-là, je crois que depuis 2011 et la finale contre la Nouvelle-Zélande, j'avais pas été autant impliqué dans un match du 15 de France. Et oui, je dois te dire que cette équipe-là, elle est prometteuse, elle est révélatrice aussi, oui, des forces du 15 de France. Pour aller dans le sens de Noah, quand il évoque le travail du top 14, Moi, je pense aussi qu'il y a un travail important et plus important en tout cas de la fédération, un travail de collaboration de la fédération française avec la Ligue nationale de rugby. Enfin, c'est pour préciser que dans le rugby, tu as ces deux instances qui s'opposent, quoi, et la Ligue nationale de rugby a un point important. Et là, on a pu constater ces dernières années, en tout cas, qu'il y a un travail collaboratif qui est meilleur. Et je pouvais citer par exemple le fait que le sélectionneur rend visite assez régulièrement, fait la tournée des clubs pour s'entretenir et se mettre d'accord sur des politiques sportives qui favorisent à la fois les clubs et le 15 de France. Et je pense notamment à cette règle des 3 feuilles de match qui avait été mise en place là pour cette tournée d'automne particulière.
Thomas, si tu veux réagir, ouais.
Ouais, on a vu des joueurs assez exceptionnels dans le pack comme Woki, Jelonch, etc. Mais je voudrais revenir sur la charnière également, puisque c'est peut-être la révélation de l'année surtout. Notre charnière exceptionnelle avec Dupont Ntamack, mais contre l'Angleterre, on jouait avec Kouyou Jalibert. Et moi, j'ai trouvé vraiment Kouyou très juste dans ses passes, etc. Et je ne sais pas si vous avez ressenti un peu pareil, mais pour Serein, enfin pour Baptiste Serein, je pense qu'il y a une grosse concurrence avec Kouyou. Je vois même Kouyou dans le futur prendre la place de Serein en deuxième neuf. Je ne sais pas si vous voyez ça comme ça.
Bon, après, enfin, oui, c'est certes, cette finale a rebattu les cartes, on va dire. C'est vrai qu'au niveau de la charnière, Kouyou a marqué des points. Après aussi, moi, je pense au poste d'arrière où Ramos, à mon avis, va être relégué en numéro 3 parce que Dulin a vraiment été, je trouve, enfin, a été très impressionnant, notamment à la réception des ballons aériens. Il s'est montré très disponible, très volontaire, très engagé, débordant d'énergie. Pour moi, c'est ça aussi ce que cette finale a apporté, c'est cette exposition de toutes les armes à disposition de Fabien Galthié et de son staff.
Et là, tu l'évoquais, Louis, est-ce que tu penses qu'avec ce match, il peut avoir une redistribution des cartes dans l'équipe? Voilà, tu évoquais Brice Dulin qui peut peut-être rentrer dans l'équipe A, on va dire, donc être titulaire. Est-ce que ce match a révélé en fait des joueurs qui pourraient à terme être titu en équipe A?
Sans contestation possible, moi je pense qu'Anthony Jelon il a sa carte à jouer pour le 6 Nations, hein, parce que c'est cette prestation qu'il nous offre là, c'est ouais, c'est là, à mon sens, c'est une véritable masterclass. Mais et concernant Dulin, peut-être pas titulaire, mais parce qu'il y aura de la concurrence avec Boutier, mais c'est sûr que oui, il a sa place dans les 23, à mon avis, pour une grosse confrontation lors du 6 Nations contre l'Angleterre. Après, comme ça, tout de suite, Pesenti, peut-être en seconde ligne aussi, qui s'est montré très, très combatif, très présent. Moi aussi, je pense que lui, il a sa carte à jouer.
Thomas, tu voulais réagir sur ça?
Ouais, concernant les troisième ligne L, effectivement, il va avoir une place pour les nouveaux joueurs qui ont joué contre l'Angleterre, puisque on rappelle Kroos est blessé. Je sais pas, je me rappelle plus trop de sa période d'indisponibilité, mais on pourrait voir un Woki, un Jelon arriver rapidement en équipe de France et performer. Après, on sait très bien que les cinq qui nous ont régalés tout au long du Six Nations vont être compliqués à bouger, mais bon, plus il y a de concurrence, mieux on va être pour le futur.
En fait, ce qui est intéressant avec cette équipe de France, c'est que tous les postes sont doublés, voire triplés. Donc, quand il va falloir appréhender des blessures ou des facteurs qu'on ne peut pas gérer, eh ben, on aura toujours des solutions sans que le niveau du 15 intrinsèque baisse. Donc, je pense que Galtier, il est satisfait de toutes ses possibilités. Et son travail, ça va être dur. Mais je pense qu'il préfère être dans une situation où il y a les postes doublés, triplés, que des joueurs qu'on ne peut pas changer et que s'il y a une blessure, on se retrouve avec des joueurs un peu moins bons, quoi. Donc je pense qu'il a la position du maître là.
Après, quand tu parles de poste doublé, moi aussi, justement, je voulais revenir sur ça. C'est que moi, j'avais une petite crainte à l'aile, notamment sur les postes d'ailier. On avait vu où on a des joueurs talentueux, mais avec de grosses lacunes. Je pense notamment à Teddy Thomas et Raka. L'émergence de Villiers, notamment, je trouve que ça offre des points qui rassurent, en fait. et de voir qu'on a enfin de la disponibilité au poste d'ailier notamment. Puis après, avec le retour de Damien Penaud, potentiellement, ça peut faire, à mon sens, des étincelles.
En novembre dernier, il y a Pablo Garbici, le jeune demi d'ouverture, pardon, de la sélection italienne, qui confiait au micro des Olympistes que la charnière Dupont et Tamac était la meilleure du monde actuellement. Et justement, est-ce que cette jeunesse française qui est déjà performante, eh ben, la France peut espérer à l'avenir d'être une grande nation mondiale du rugby, au même titre que les All Blacks, par exemple?
Oula, tu t'avances beaucoup là quand même, hein. Déjà, avant d'être une grande nation mondiale, je pense qu'il va falloir déjà se concentrer sur les Six Nations. Si on est capable d'aller tous les ans, mais vraiment tous les ans, aller chercher le Pays de Galles, l'Irlande et l'Angleterre, alors pour la Coupe du Monde 2023, franchement, on pourra faire quelque chose. Mais avant, je pense qu'il faut mieux se concentrer sur l'Europe avant de viser plus loin.
Et pour toi, le déclic doit passer peut-être par le gain des Six Nations déjà en premier.
Ouais, c'est ça, on attend déjà depuis 10 ans, 11 ans du coup l'année prochaine. Faut vraiment la gagner et on verra après.
Louise, tu veux réagir?
Oui, je suis d'accord avec Thomas. Il y a des paliers à franchir d'abord, et la conquête de l'hémisphère nord avant d'aller titiller les All Blacks, c'est paraît comme une évidence. Mais est-ce que après être comment dire, est-ce que la France a le potentiel pour devenir une grande nation ou redevenir une grande nation du rugby international? Oui. Est-ce qu'elle a le potentiel pour devenir la plus grande nation du rugby? Bon, ça c'est un autre débat, et je pense que c'est pas tout de suite qu'on aura les réponses, à mon sens.
Puisqu'on commence à jouer un jeu que l'hémisphère sud joue déjà depuis 5-6 ans, ce jeu-là, les passes après contact, les arrêts, les avants qui courent, etc. Franchement, avant de rivaliser avec l'Afrique du Sud, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, il va falloir qu'on excelle quand même dans ce jeu.
Ouais, je suis d'accord avec les gars. En fait, 2023, c'est très très loin encore. Il peut se passer encore énormément de choses. Donc ouais, se concentrer sur le tournoi, parce que certes, on a fait un super tournoi et je suis le premier content quand je vois les mecs se donner à fond comme ça. Il faut pas oublier qu'on a traversé des années de galère et tout ça. Donc se concentrer sur notre hémisphère, sur les fondamentaux, aller gagner le plus possible, comme l'a dit Thomas, en Angleterre, au Pays de Galles, en Irlande tous les ans. Et après, on parlera de 2023.
Alors là, voilà, tu parles de 2023. Le tirage au sort de la Coupe du Monde qui aura lieu en France en 2023 a eu lieu en décembre à Paris. La France est dans la poule de la Nouvelle-Zélande, de l'Italie. Il y aura également une équipe américaine, une équipe africaine. Donc c'est une poule a priori abordable. Est-ce que pour vous, quand même, la France a toutes ses chances pour 2023, pour la victoire finale?
Mais abordable, oui, pour passer au tour prochain, mais pour être premier de son groupe, c'est pas forcément ce qu'on peut appeler de plus abordable de taper la Nouvelle-Zélande en poule. Après, bon, en 2011, ça nous a plutôt réussi puisqu'on s'est retrouvé en finale. Mais bon, la Coupe du Monde 2011, elle est assez particulière parce que bon, comme on sait, Lièvremont avait perdu le contrôle sur ses joueurs, et ce sont les joueurs qui sont allés tout seuls en finale, hein. Donc oui, c'est abordable pour sortir et après disputer les phases finales, mais bon, on n'est pas à l'abri de se faire taper en quart de finale sur je sais pas moi l'Argentine, notre bête noire comme ça qui revient, et là tu te dis adieu à ta Coupe du Monde 2023 en France, hein.
Après, on évite quand même les blacks dans notre partie de tableau au second tour, même si on finit deuxième, ne pas avoir la Nouvelle-Zélande dans notre partie, c'est quand même un sacré avantage. Et en plus, quand tu vois la gueule de la poule, l'Italie, bon, normalement, il faudrait les taper. Les Amériques 1, c'est soit le Canada, soit les États-Unis. Afrique, ça va être la Namibie, normalement. Donc, pour moi, c'est la meilleure poule dans laquelle on pouvait tomber, surtout avec un Nouvelle-Zélande-France, peut-être en match d'ouverture. Qu'est-ce qu'on va se régaler? En plus, on va pas avoir les Blacks en seconde partie.
Noah, si tu veux y aller.
Moi, je pense clairement qu'en fait, on pouvait pas rêver mieux niveau poule. Parce que les Blacks, moi, j'attends que ça, en fait, de voir nos jeunes bleus les affronter. J'attends que ça, de voir pourquoi pas l'exploit. Parce que les Italiens, bon, ils risquent de partir avec les valises pleines. Les Africains et tout ça, certes, ils sont jouables. Mais moi, c'est face aux Néo-Zélandais que je les attends, nos Français. C'est face à des grandes nations où on sera pas favori que je les attends. Donc, c'est des matchs comme ça que je veux voir. Et oui, effectivement, c'est plutôt intéressant de ne pas les retrouver ensuite en phase finale et pourquoi pas les affronter en justement en finale comme en 2011. Et ouais, c'est ça qui m'intéresse moi, c'est affronter les gros. Donc plus on affrontera des gros, mieux ce sera pour moi.
Et en plus, au lieu de se tourner les pouces pendant toute la première semaine, on affronte direct un gros, on se met direct dedans et pour aller plus loin ensuite.
Bah merci les gars pour ce débat. On croise les doigts pour 2023. Je pense qu'on suivra tous avec intention le parcours de nos bleus en cette Coupe du Monde. Bah, je vous dis à très bientôt, puis à bientôt les gars.
Ouais,
Salut,
bye
bonne
bye.
nuit.
Malheureusement, c'est déjà la fin de cette quatrième émission. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver le podcast Planète Sport sur les plateformes Deezer, Spotify ou encore Apple Podcast. On vous attend également, bien sûr, sur notre site web http://lesolympistes.com et sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Bien évidemment, en ce 31 décembre, la rédaction des Olympistes vous souhaite à tous une très bonne année 2021 qui s'annonce sportive avec les JO et l'Euro de football en ligne de mire. On vous donne donc rendez-vous prochainement dès janvier 2021 pour de nouveaux débats, des chroniques et plein d'autres surprises encore. Sur ce, on vous souhaite à tous une bonne année. À plus les sportifs!